Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h08 sur RMC, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission du week-end en direct jusqu'à midi, à retrouver aussi en podcast. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast sur l'appli RMC. On est revenu notamment à partir de 9h30 sur le match France-Allemagne et la défaite des Bleus hier soir. Au casting des GG ce matin, Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Olivier Giraud, Marie Martineau. Dans quelques instants, le bras de fer de nos grandes gueules, Pogacar, Vingegaard qui sévite jusqu'au Tour de France. Est-ce que c'est frustrant ou excitant? À 10h30, la punchline qui concerne Nicolas Karabatic. Le triple champion olympique ne pourra pas être porte-drapeau à cause des critères de Paris 2024. Est-ce que c'est injuste ou non pour le champion de hand? Et puis à 11h, les GG passent la seconde. Pourquoi pas Benzema aux Jeux Olympiques avec les Bleus? En tout cas, c'est une hypothèse qui a été évoquée cette semaine. Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée? Et puis, c'est le retour du coffre RMC avec 50 000 euros à gagner. Dès
les
que vous entendez ce signal, ce signal.
Ah, il n'y a pas de signal.
On l'entend bien. Hein. Voilà. Ça, vous ne pouvez pas le rater. Vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 7-32-16 et pour tenter d'ouvrir le coffre le vendredi 29 mars et de gagner jusqu'à 50 000 euros. L'alerte qui peut tomber à tout moment. Alors, vous restez bien à l'écoute des grandes gueules du sport.
RMC. Le bras de fer GG.
Attaque de Pogacar avec Vingegaard qui prend la roue du maillot blanc. Va-t-il craquer? Vingegaard, attaque très violente de Pogacar. Mais Vingegaard pour l'instant ne lâche rien. Pogacar qui attaque avec Vingegaard qui réagit immédiatement et qui tente de prendre la roue du maillot blanc. Le mano à mano qu'on a déjà vu à maintes reprises sur les routes de ce Tour de France. C'est Pogacar qui est en train de faire péter Vingegaard.
Un très bon Christophe Cessieux.
Ah oh, oui.
Vous l'avez entendu.
Plus réveillé que ce matin.
Très en forme.
Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sont impressionnants depuis le début de la saison. Les deux cyclistes nous offrent un duel épique depuis plusieurs années sur le Tour de France. Mais ils préfèrent s'éviter sur les autres courses de l'année. Il faut s'habituer à ne les voir s'affronter qu'une fois dans l'année. Est-ce que c'est frustrant ou est-ce que c'est excitant? Dans le coin gauche, la team excitant représentée par Marion Bartoli et Olivier Giraud. Vous l'avez compris, dans le coin droit, la team frustrant, Christophe Cessieux, Marie Martineau. Avant d'en débattre, on va accueillir Arnaud Souk qui commente les courses cyclistes depuis le début de la saison. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Hello. Salut Arnaud.
Depuis le début de la saison, on peut le dire, un Pogacar et Vingegaard sont quasiment intouchables.
Oui, intouchable, impressionnant, hors d'atteinte, hein, les mots nous manquent pour décrire ce début de saison de nos deux fantastiques. Prenez Tadej Pogacar, 8 jours de course, tous depuis le début du mois de mars. Il a terminé à 6 reprises sur le podium pour notamment 4 victoires sur l'Estrade Bianche, puis cette semaine sur la totalité des grandes étapes de montagne du Tour de Catalogne, avec à chaque fois un dénominateur commun, une échappée en solitaire au long cours et des attaques dévastatrices pour la concurrence. Finalement, le seul objectif, hein, qui est véritablement échappé au Slovène, c'est Milan-San Remo, où il n'a pas été en mesure de se débarrasser des sprinteurs dans le Poggio et a finalement dû se contenter d'une troisième place. Quant à Jonas Vingegaard, le double tenant du titre du Tour de France, le ratio est encore plus fou. 2 courses par étape, le Grand Camino et Tirreno-Adriatico, 11 jours passés sur le vélo et 7 victoires au compteur, à chaque fois là aussi en solitaire. Bref, la concurrence est prévenue, ces deux-là n'ont pas un seul instant l'intention de laisser leur part au chat.
Merci beaucoup Arnaud, on te libère. Merci beaucoup d'être passé dans les grandes gueules du sport pour donc cette question. Pogacar, Vingegaard qui sévite jusqu'au Tour de France, est-ce que c'est frustrant ou excitant? On vous a posé la question sur le compte X des grandes gueules du sport et pour l'instant la team excitant est en tête assez largement, 63%. La team frustrant, Christophe Cessieux, Marie Martineau, il va falloir faire votre retard, 37%. Je vais d'abord donner la parole à Marion Bartoli, qui trouve que donc c'est excitant de ne les voir que sur le Tour de France, Marion.
Bien évidemment, c'est excitant parce qu'en fait, le fait de ne pas les voir s'affronter directement l'un contre l'autre pendant toute l'année nous donne encore plus envie de les voir s'affronter au Tour de France. C'est ça qui est excitant. On les verrait s'affronter sur plein de courses avant ça. Peut-être que certainement, il y aurait des tactiques différentes mises en place sur le Tour de France ou en tout cas une capacité à anticiper ce que va faire l'autre plus importante. Alors que là, il y a cette excitation de se dire, bah, ils arrivent effectivement en extraterrestre, ils archi-dominent tout le reste de la concurrence. l'occurrence, ce qu'a fait Pogačar sur l'Estrade Bianche, il a quand même mis le deuxième à plus de 3 minutes. Ce que fait Vingegaard dans ses deux attaques dans la montagne, c'est absolument les deux étapes de montagne, c'est quasiment jouer avec ses adversaires. Donc moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de savoir comment ils vont s'affronter, quelles vont être les tactiques de course de la part des deux équipes, de voir la Visma et l'UAE comme ça s'affronter à distance pour ensuite sur le Tour de France s'entretuer. Moi, ça m'excite fortement. Je les verrai sur beaucoup plus de courses. Je pense que franchement, l'excitation redescendrait. Mmh. Et pour moi, justement, on est excité parce qu'on est frustré de ne pas les voir. Donc c'est un petit peu, c'est pour ça que j'ai hésité aussi dans ma réponse. Mais pour moi, l'excitation vient du fait que c'est rare. Et donc quand c'est rare et quand ça arrive, il y a encore plus d'excitation qui monte. Et parce que là, franchement,
coup,
cette année, je l'ai trouvé exceptionnel.
Marion, Nadal et Djokovic qui
mais
s'affrontent.
Mais tu peux pas comparer
bien
le vélo tennis.
Les voir une fois s'affronter dans l'année et le reste du temps s'éviter comme mais ça. Écraser tous leurs adversaires pendant tout le reste de l'année, puis bam, une fois par an. Ah bah tiens, Roland Garros, tiens, ce serait pas mal.
Ils ont 5
points. Tu peux pas comparer excitant. Les sports. Mais tu peux pas comparer les sports, Christophe. Nous, en tennis, c'est obligatoire que tout le monde doit jouer.
Je vois pas pourquoi tu peux pas comparer.
En cyclisme, chacun fait son planning comme il veut.
Je vois pas pourquoi. Et tu trouverais ça excitant de voir Verstappen et Hamilton, du temps de sa splendeur, ne s'affronter que sur le Grand Prix de Monaco, par exemple. Une fois par an, comme ça, ça ferait
mais
bien monter la pression
tous
avant.
Les sports.
Tu veux que je compare quoi? Tu veux que je compare avec la pétanque? Tu veux que je compare
avec les sports où chacun choisit sa programmation?
Tiens, on va jouer à la marelle. Allez,
il est en train de faire une marelle dans le studio.
Compare avec les sports où on n'est pas obligé d'avoir une programmation qui est déjà écrite pour
tout le monde. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve ça un peu frustrant au niveau vélo. C'est-à-dire qu'on a un calendrier tellement rempli qu'en fait les mecs font leur programme, ils étudient leur petit programme surtout pour s'éviter. Et ça c'est assez nouveau parce que par le passé, eh bien les grands champions s'affrontaient régulièrement tout au long de l'année dans les grandes compétitions. Tu les voyais s'affronter sur les courses d'un jour, tu les voyais s'affronter sur le Tour de France évidemment, mais sur d'autres épreuves également. Là on a l'impression que c'est un scénario fait pour Netflix. Vous savez que Netflix fait une série sur le Tour de France, oui. Et que tout est fait pour que le scénario soit le. Alors on les voit écraser leurs adversaires dans toutes les courses, mais ils écrasent tellement leurs adversaires qu'il n'y a plus de courses.
C'est ça le problème.
C'est pour ça qu'on aurait envie de les voir plus régulièrement. Je dis pas de s'affronter dans toutes les courses tout au long de l'année, mais au moins d'avoir un point de repère. Tu vois, genre au mois de mars l'année dernière, ils s'étaient affrontés sur Paris-Nice par exemple. Alors Vingegaard n'avait pas la forme qu'il avait ensuite au Tour de France, mais au moins t'avais un aperçu. Puis tu pouvais espérer parce que Gaudu avait réussi à battre Vingegaard. Bon après depuis il est parti en perte et fracas. Bon en tout cas tu les avais vus une fois ensemble et je trouve ça excitant, je trouve ça que c'est un formidable teaser pour le Tour de France. Alors que là, les voir terminer, partir à 80 km de l'arrivée dans une course, exactement, remporter toutes les autres épreuves en arrivant seul au sommet, ok, ils sont les plus forts, mais on a envie de les voir s'affronter. Alors, évidemment, je rêve que d'une chose. Moi, je rêve d'être téléporté en ce moment-là jusqu'à Florence le 29 juin au départ du Tour de France. Ben voilà. Ça va être un grand moment. Oui, mais c'est court, 3 semaines dans l'année, quoi. Moi qui adore le vélo, j'aimerais les voir tout le temps.
Il n'y a pas que le Tour de France, c'est ça que veut dire aussi Christophe. Il n'y a pas que le Tour de France, même si c'est la course la plus importante.
Il n'y a pas que le Tour de France. Mais moi, je trouve ça juste fantastique, justement, parce qu'il n'y a que le Tour de France. Ça veut dire que si la plus grande compétition du monde. Mais Christophe, si la plus grande compétition du monde, elle était en Russie, bien sûr, je serais frustré. Parce qu'en fait, finalement, on les verrait, mais pas chez nous. Pour une fois, on a la chance que, en fait, le terrain où les meilleurs vont s'affronter, c'est chez nous. Donc, pour le français, pour moi, en tout cas...
Pour celui qui ne regarde que le Tour de France.
Pour moi, le storytelling, il est fantastique. Après, la raison pour laquelle ils ne s'affrontent pas, les deux types, là...
Non, mais là, c'est du business.
Ils sont le vélo...
Après, ils n'ont pas le profil non plus.
Dans le vélo, ils ont une capacité à tout calculer, on le sait.
Mais oui.
Pourquoi aller s'affronter, aller s'user, alors que tu peux te partager le gâteau?
Exactement.
Chacun va s'affronter des deux côtés.
Mais c'est hyper frustrant.
C'est hyper cynique, là, ce que tu es en train de dire.
Mais c'est vrai, mais c'est une réalité.
C'est cynique, mais c'est la vérité.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire que sur les ATP 250, le Big Four à l'époque, mais jamais ils s'affrontaient.
Contrairement au Tour de France, mais oui, mais il y a au moins 4 moments dans l'année où ils s'affrontent, les tennismen.
Voilà, ils ont 4 moments où ils s'affrontent.
Mais là, c'est une fois, c'est pas beaucoup une fois quand même.
Mais ils faisaient la même chose et ils se partageaient le gâteau sur toutes les compètes. Mais quand tu regardais les presses monnaies.
Mais il y avait un truc au mois de janvier, un truc au mois de mai, l'autre événement au mois de juillet et le dernier au mois de septembre. Au moins, ça t'éclairait toute l'année.
Mets-toi à leur place. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils peuvent tous se partager et s'affronter. Et comme tu le disais, ils sont en train de, le storytelling, il est magnifique. Il est en train d'être bâti. Mais on le savait pas avant que ces dernières courses, on voit qu'ils écrasent tout. Il y a même pas de concurrence. Évidemment, aujourd'hui, quand tu regardes ces courses-là, tu dis
ça les dévalorise. Alors,
mais clairement, c'est hyper dévalorisant.
Oui, mais ça, tu le savais pas avant de voir les courses. C'est-à-dire que là, on voit vraiment qu'il n'y a aucune concurrence. C'est-à-dire que
Poggi a été battu sur
Milan San Remo, c'est vrai.
Mais très peu. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Tour de France, mais surtout pour notre compétition.
Ouais, mais pour le Tour de France, c'est une formidable nouvelle.
La saison de vélo, elle a ça de génial. Elle est hyper large. Elle commence là très tôt. Elle a déjà commencé.
Elle commence fin janvier.
Et en fait, effectivement, ils se sont partagés le gâteau. Moi, je trouve ça frustrant parce que ils font passer tous les autres pour des nazes. Et excusez-moi du peu, c'est carrément pas des nazes les autres. Mais en se partageant le gâteau comme ça, tout le monde est content dans les équipes. Ça fait parler des partenaires. Les équipes sont contentes. Les deux là, ils sont contents, ils sont contents, ils se partagent le gâteau et on a ce point d'or comme ça qui est effectivement le climax de la série Netflix au Tour de France, cette fameuse grande compétition qui ne fait parler de vélo et qui ne fait rêver quand même, enfin principalement les gens qui ne suivent pas le vélo à l'année. Mais quand tu suis le vélo à l'année, moi je trouve que c'est vraiment dommage ce qu'ils sont en train de faire. Ça donne une image du vélo pas terrible. Mais je comprends, il faut monter la cote de leur fer de lance et c'est très bien pour les partenaires. C'est comme les boxeurs invaincus, tu vois. S'il y avait une comparaison à faire, ce serait peut-être plus avec la boxe parce que tu choisis le moment où tu veux vraiment te rencontrer. Mais je trouve ça.
Faut pas qu'il y en ait un qui se blesse avant le Tour de France.
Alors le grand problème, c'est que Pogacar a décidé de changer un peu son programme cette année.
Il va faire le Giro.
Il va s'aligner sur le Tour d'Italie avant le Tour de France, et que par conséquent, la distance entre la fin du Giro et le début du Tour de France étant très raccourcie, est-ce qu'il aura récupéré de ses efforts et est-ce qu'il aura un vrai duel
le Tour de France,
parce qu'à ce moment-là, si t'as aucun duel dans l'année, là tu seras bien embêté, ou alors jamais, il faudra reporter ça au Tour d'Espagne,
parce que d'accord que doubler Giro plus Tour de France, c'est très compliqué.
Ouais, mais Vingegaard veut doubler Vuelta Tour de France.
Oui, mais c'est pas dans le même sens. Donc, il sera en pleine forme dans le Tour de France.
Oui, mais ils ne courent pas après la même chose, je pense, les deux. Ils n'ont pas le même quête.
Ils n'ont pas du tout la même conception du vélo. Vingegaard, il y a un truc dans la vie.
Ouais.
Il y a un truc qui l'intéresse, c'est gagner le Tour de France. Le reste, il n'en a rien à péter. Mais alors, rien du tout. Le reste, c'est de la gnognotte, c'est les petits bijoux que t'offrais.
Tout le reste.
C'est de la gnognotte. Alors que Pogacar est un vrai coureur cycliste qui s'aligne et qui veut tout remporter. Il veut gagner les 7 monuments. Il est bien parti pour le faire, même s'il lui manque encore quelques grands monuments à son actif. Mais c'est un garçon qui s'amuse sur le vélo, qui essaye de faire des trucs différents. L'autre, c'est la machine programmée pour le Tour de France. Et puis, c'est tout.
Tu voulais rajouter quelque chose, Olivier? On va prendre Kevin.
Rajouter juste un petit truc, c'est qu'il y a 2 ans, on a eu un débat sur qui étaient les grands cyclistes actuels. Et finalement, dans ces 2 ans qui se sont passés, ces 2 coureurs, que sont Vingegaard et Pogacar, ils ont tout écrasé. Parce qu'il y a 2 ans, il y avait Van der Poel, on se disait...
N'oublie pas celui-là, Olivier.
Moi, je vais te parler de l'autre, Van Aert, parce qu'à l'époque, Van Aert, c'était la grande star. Moi, j'ai un fan de Van Aert. Dès que Van Aert, il gagne un truc, il dit, alors tu vois Van Aert, tu vois que c'est un goat. C'est vrai que ces 2 ans, ils ont tout écrasé.
Je voulais faire ma contre-attaque hier, mais on m'a pas voulu la laisser faire.
On va pas revenir sur hier.
On ne voulait pas. J'avais des très bons arguments sur
Van
Aert.
C'est la démocratie, ce sont les votes.
N'oublie pas Van der Poel. Tu vas voir Van der Poel. Dimanche prochain, Tour des Flandres. Non, dimanche d'après, Paris-Roubaix. Il y aura ni Pogacar, ni Vingegaard. Et je peux te dire.
J'ai déjà le fan de Van Aert qui est sur mon dos tout le temps. Je vais pas m'arrêter sur de Van der Poel.
Alors, on va prendre Kevin à 10h22 dans les grandes gueules du sport qui veut participer à notre débat.
Salut Kevin. Tu es entièrement d'accord avec moi, hein, Kevin?
Je sais pas. Moi, j'étais clairement sur la ligne. C'est excitant.
Non, t'étais pas du tout avec Marie.
j'avais pas reconnu la voix. Pardon, je savais pas qui c'était. Donc, clairement, moi, je vais reprendre les arguments de Christophe. J'ai fait des comparaisons avec le sport, avec le tennis. En fait, le fait que finalement, ça soit un duel et que l'adversité soit clairement un ton en dessous, ils ont fait basculer le cyclisme vers un autre sport et pas vers le tennis, mais vers la boxe. Et là, on est sur un majeur. Et quand tu as un grand championnat du monde qui est annoncé, t'as pas des combats d'entraînement entre les deux qui vont se combattre. C'est une préparation. Et là, on a Rocky contre Drago. On a le feu contre la glace. Et du coup, ça fait sens finalement qu'ils s'affrontent qu'une seule fois dans l'année, parce qu'on est sur cette rivalité profonde, cet événement. Et c'est très bien que ça fasse monter la sauce. Parce que justement, on a aussi.
C'est réducteur quand même, Kevin. C'est très bien, mais c'est réducteur. Je fais le même constat que toi, hein, mais je suis.
T'es un fan de vélo, Kevin?
T'es fan de vélo, c'est ouais, décevant, quoi.
Ah, et ça te frustre jamais de voir des courses alors qu'ils sont au-dessus du game à chaque fois, de pas les voir ensemble sur les autres courses.
Non, parce que je reviens sur ce que disait Olivier. Je suis français et donc c'est flatteur que la course ultime, le championnat du monde quelque part de ce sport-là, ça reste le Tour de France. Après, je n'oublie pas sur d'autres courses. Voilà, on a parlé de Van der Poel sur Paris-Roubaix. Il y a d'autres courses où il y a ni l'un ni l'autre où l'amateur de cycliste que je suis va apprécier ces duels entre Van der Poel, Van Aert avec Philipsen sur Milan-San Remo, pardon. Et du coup voilà, il y a d'autres choses, il y a d'autres intérêts au cyclisme. Par contre, clairement, Paris-Nice, le Tour de Catalogne, Tirreno-Adriatico, ça reste des courses de préparation. Et dans la mesure où il y a ce duel ultime et qu'il y a pas match, parce que clairement, Evan Poul, je le vois pas, ou Roglic, je les vois pas jouer dans la même catégorie sur le Tour de France. Et ben du coup voilà, il y a cette dramaturgie qui va monter petit à petit. On va voir aussi les équipes, parce qu'on parle du duel. Mais il y a aussi des équipes avec Vingegaard qui a perdu Roglic mais qui a récupéré Jurgensen. On voit des montées en puissance d'Almeida et d'Ayuso.
Mais pourquoi attendre le Tour de France pour vivre tout ça? Moi, ça me ferait kiffer de voir ça sur d'autres courses.
Mais non, parce que de toute manière, on voit sur Paris-Nice l'année dernière, où Pogacar avait battu Vingegaard, où Vingegaard était en dessous, même s'ils se confrontaient, on dirait toujours mais ils n'en sont pas au même point dans leur préparation, ils n'ont pas le même problème.
Peut-être, mais on analyserait. Mais voir Poggi repartir à 80 km de l'arrivée, et y aller tout seul, c'est quand même.
Et puis ça donne un peu des billes avant le Tour de France, justement, hein, les forces en présence, tout ça, ça nous permet de savoir tout ça aussi. Kevin.
Mais t'es bon, Kevin, t'es très bon.
Je reviens sur Paris-Nice l'année dernière. Au final, est-ce qu'on avait des enseignements sur ce qui allait se passer en juillet après Paris-Nice l'année dernière? Pas plus qu'aujourd'hui.
J'aimerais bien les voir s'affronter sur le Dauphiné, tu vois, par exemple.
Ok.
À 15 jours du début du Tour de France, là, ça pourrait donner des indications, mais jamais ils le feront, hein, parce que ce serait donner trop de billes à l'adversaire. Donc, mais bon.
En tout cas, Kevin, tu as été excellent. Bravo, bien sûr. Dans les grandes gueules du sport.
Tu te rends compte qu'avec Kevin, même ceux qui n'étaient pas d'accord, ils sont basculés de l'autre côté.
Non, il reste frustré.
Merci, Kevin.
Tu vois pas les
frustrés sous la torture, mais autrement, je ne change jamais d'avis.
Le score du sondage posté sur le compte X des grandes gueules du sport. Le score, eh bien, c'est une victoire écrasante de la team excitant Marion Bartoli, Olivier Giraud,
63%.
37% pour frustrant, mais. Je note quand même, et c'est mon honnêteté journalistique qui me pousse à le faire.
C'est sûr.
Brad Honor qui nous dit sur Twitter, Marie Martineau et Christophe Cessieux ont raison sur toute la ligne. Point barre.
Point barre.
Ça, c'est argumenté. Voilà. Point barre.
Et ça vient de passer à 38%.
Et Brad, c'est un mec qui connaît un peu le vélo. Brad, il a fait tout l'école de France et de Navarre.
D'accord.
Ah ouais, je te jure.
Ça vient de passer à 38%. Donc, petite victoire.
Mais victoire quand même.
Qui vient de gagner un point.
Exactement. Voilà.
C'est bien.
Bravo à vous. Allez, dans un instant, les GG reviennent avec la punchline d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui concerne Nicolas Karabatic, le champion de hand, ne pourra pas être porte-drapeau. On vous explique tout. Est-ce que c'est injuste ou non? On en parle tout de suite dans les GG. À tout de suite.
RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h30 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport en pleine forme ce matin, c'est en direct jusqu'à midi, Marie Martineau, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Olivier Giraud. Dans 10 minutes, le zapping des GG, je vous parlerai d'une performance française au championnat du monde de patinage, c'était cette nuit, et puis on connaît le nombre de préservatifs à disposition des athlètes pour Paris 2024, c'est un chiffre évidemment important. à vous donner. À 11h45, ne manquez pas un nouvel épisode, Christophe, de C'était mieux avant, jusqu'aux Jeux Olympiques. Tu vas nous raconter les plus grands exploits, les plus grandes histoires autour des Jeux Olympiques. C'est quoi aujourd'hui?
Oh, je vais vous parler d'un grand monsieur de l'athlétisme français. On n'était pas nés, aucun de nous n'était né.
Même toi?
En 1956.
Oh bah, si t'avais déjà 40 ans.
Non, je n'étais qu'une lueur dans le regard de mon père, une belle lueur quand même, mais une lueur tout de même. Oui, Alain Mimoun, vous connaissez Alain Mimoun, évidemment, sa verve, son franc-parler, son amour de la France et surtout des qualités d'athlète incroyables. En 1956, il n'avait jamais disputé un marathon. Eh bien, il a remporté le marathon incroyable. Olympique. On va raconter sa story. Elle est truculente. Vraiment un personnage extraordinaire.
C'était mieux avant. 11h45 dans les grandes gueules du sport. Vous l'avez compris, à ne pas manquer. Mais d'abord, la punchline des GG qui est donc signée ce matin, Amélie Oudéa-Castéra. La ministre des Sports a été interrogée cette semaine sur les critères imposés aux athlètes qui souhaitent être porte-drapeau lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La ministre a été interrogée spécifiquement sur le cas de Nicolas Karabatic. Écoutez.
RMC, la punchline GG.
Je pense que pour être fort, il faut qu'il y ait beaucoup de clarté dans les rôles et les responsabilités de chacun et que chacun aille au bout de la mission qui lui a été confiée. Les critères de sélection des porte-drapeaux, ils ne dépendent pas du ministère des Sports et des Jeux. Ils dépendent des deux comités qui ont mûrement réfléchi, qui ont posé ces critères d'être un Olympien, de ne pas avoir déjà été porte-drapeau et de la prise en compte de critères liés aux valeurs dans le sport. Et je veux souligner qu'avec l'application de ces critères, nous avons la faculté d'avoir des formidables porte-drapeaux, aussi bien hommes que femmes, aussi bien olympiques que paralympiques.
Amélie Oudéa-Castéra au sujet donc de Nicolas Karabatic et de ses critères pris en compte pour choisir le porte-drapeau. Les critères, on les connaît, je vous les rappelle quand même, avoir déjà participé aux Jeux Olympiques, ne pas avoir été déjà porte-drapeau, ce qui exclut par exemple Riner ou Agbenenou, avoir un casier judiciaire vierge. Alors ce n'est pas le casier judiciaire de Karabatic qui pose véritablement problème en soi, puisqu'il n'a pas été condamné à de lourdes peines, mais un autre critère que vous révélait cette semaine RMC Sport, les athlètes candidats au rôle de porte-drapeau devront s'engager sur l'honneur à ne pas avoir été impliqués dans une affaire de manipulation sportive. Et c'est justement l'objet de sa condamnation dans l'affaire. Vous vous en souvenez des paris truqués. Pourtant, Nicolas Karabatic et ses 3 titres olympiques, eh bien, c'est l'un des athlètes les plus cités pour être porte-drapeau par les Français. D'où cette question, les GG. Est-ce que c'est injuste ou non pour Nicolas Karabatic? Marie Martineau.
Absolument pas.
Christophe Cessieux.
Je trouve que c'est un peu injuste, oui.
Olivier Giraud.
Alors moi j'ai une position un petit peu particulière.
Donc
parce que tu le connais.
Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que l'affaire je la connais oui de A à Z. Donc vous verrez, c'est juste et injuste. C'est les deux.
C'est un voué ou c'est un
non, oui. C'est un débat qui mérite.
Tout ne se résume pas à un oui voilà. Ou un non, monsieur Pinet,
dans cette émission. Monsieur Cessieux, vous le savez. Mario Bartoli.
Absolument pas.
C'est un non. Voilà un non ferme. Bravo.
Mais oui, mais
c'est bien.
Alors, on va commencer par toi, Marion. Pourquoi ce non ferme?
Ah, mais décidément, deux fois, c'est le premier. Et parce que, effectivement, et pour moi, pour être porte-drapeau, il faut être absolument irréprochable et qu'avec ces critères-là, ça nous reste quand même avec des noms qui résonnent dans le cœur des Français, qui sont des sportifs français absolument exceptionnels et qui ont marqué l'histoire de ce sport. Je pense à éventuellement Renaud Lavillenie, je pense à Florent Manodou, je pense à Nicolas Batum, je pense éventuellement à Kevin Mayer. C'est bien sûr pour le porte-drapeau côté homme. Pour les femmes, il y aurait d'autres noms éventuellement aussi. Après, j'espère, alors ça va faire plaisir à Olivier, qu'un représentant du hand, même si c'est un représentant féminin, sera présent. Et j'espère que Estelle Nzeminko sera porte-drapeau de la délégation française, parce que seul Jackson Richardson a eu cet honneur en 2004 à Athènes. Mais pour moi, effectivement, par contre, ce qui me gêne le plus dans les critères proposés par le CNOSF, c'est le fait de pas être premier participant. Ça me gêne. Je ne comprends pas pourquoi on peut pas être premier participant.
Moi, je vais t'expliquer.
Porteur de drapeau, ça j'ai un peu plus de mal, mais je suis heureuse de pouvoir entendre les explications de Marie. Mais sur les affaires de manipulation,
c'est pas juste pour Nicolas Karabatic.
Voilà, là je suis plutôt
Christophe.
Sur le nom.
T'as dit oui.
Oui, oui, moi, alors, évidemment, j'ai bien compris vos arguments, Marie, Marion, c'est dura, lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est moi, la loi, il faut donc l'appliquer, et il faut appliquer les règlements à la lettre, parce que, il a fait une bêtise, il y a 15 ans, il a fait une bêtise, alors il a violé personne, il a pas frappé sa femme, il a pas...
C'était en 2017, hein, c'est pas il y a 15 ans.
2012. Donc ça commence quand même.
Mais ça fait toujours pas 15 ans quand même.
Non, oui, si tu veux, là, ça fait que 14 ans et demi. Donc on va... Non, mais alors il faut savoir que cette bêtise l'avait déjà privé de la Légion d'honneur, alors que toute l'équipe de France de hand, toutes les équipes de France de hand ont tu l'as la Légion d'honneur toi,
eh
ben Olivier.
Oui.
Marion aussi, tu l'as.
Ben oui,
bah Marion aussi.
Non, t'as fait une bêtise. On n'a pas fait de bêtise.
T'as pas la Légion d'honneur. Quoi.
L'ordre du mérite.
On n'a pas fait de bêtise.
C'est quoi ça?
Et toi, Christophe, tu l'as
pourquoi
pas.
Pourquoi?
Parce que l'argent, c'est l'ordre du mérite.
La Légion du déshonneur, moi, tu vois, il quoi. Moi, j'ai rien fait pour la France. Rien fait pour la République. Bon, je vais dire. Évidemment qu'il y a un règlement. Évidemment qu'il a fait une connerie. Qu'il n'a jamais, il l'a jamais avoué d'ailleurs. Hein. Il continue de nier qu'il ait été impliqué dans ce truc-là. Kara Batic le sait. Mmh. En tout cas. Je pense qu'au bout d'un moment, et on pourrait lui pardonner. Je veux dire, on pardonne à tout le monde dans la société une fois que tu as accompli ta peine, une fois que tu as payé ton dû à la société, eh ben t'es réintégré. Et ça, en revanche, bah tu le traînes alors que c'est pas inscrit dans son casier judiciaire. Il le traîne comme un boulet et il va le traîner toute sa vie. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Montpellier. Il y est allé il y a quelques semaines parce que c'est sa dernière saison. Eh ben le club de Montpellier a refusé de l'applaudir, refusé de lui faire une hola, ok, il y a peut-être une bêtise, c'est un mythe, c'est une légende du sport français, et je trouve que c'est alors ça va pas me faire pleurer, mais je trouve que c'est dur pour un mec comme ça de ne pas lui donner la chance, lui qui a tant apporté au sport
parce que
français.
Le porte-drapeau c'est quand même celui qui porte le drapeau français, et c'est vrai que pour le sport français il a quand même
il faut avoir fait toutes ces communions, il faut avoir eu 20 sur 20 à tous tes contrôles pendant 40 ans.
Oui, c'est mieux,
il faut
s'être
marié, jamais avoir divorcé, il faut pas avoir couché avant le mariage.
Alors si éventuellement t'as pas trompé ta femme aussi, c'est mieux.
Alors
c'est mieux aussi. Avec Marie, on est.
Ouais. Ah non, mais c'était merveilleux. Alors, tu vas être beaucoup moins truculente. Désolé.
Ça va être difficile de faire mieux.
Dans le parcours olympique, parce qu'on parle, des gamins, de 16 à 25 ans qui vont faire les Jeux pour une grosse partie pour la première fois. Et les paris truqués, la manipulation autour de tout ça, c'est un vrai sujet, c'est un sujet grave. Et il y a des athlètes qui ont été approchés pour modifier leur performance.
On utilise truqués, manipulation. Attention.
Non, mais je t'ai pas dit que c'était le cas de Karabatic.
Oui, mais le problème, c'est que dans l'image.
Non, mais laisse-moi aller au bout, Olivier. Non,
c'est le critère qui est utilisé. C'est pour ça, peut-être, que Marie reprend. C'est, mais le critère utilisé, c'est ne pas être impliqué dans une affaire de manipulation sportive. C'est le critère utilisé.
C'est pour ça que c'est important, ce que je viens d'entendre.
Donc, ce sujet-là est un sujet très important, à tel point qu'il y a des sessions de travail autour de ça pour les athlètes et la délégation. Il y a des conférences autour de ces sujets pour qu'on te réexplique bien, parce que tu as des gamins qui arrivent de milieux où ils ne connaissent pas du tout ce genre d'influence qui pourrait être liée à tout ça. Et donc, tu essaies d'envoyer des messages pour que cette délégation ait bien conscience que ça, c'est mal. La manipulation dans le sport, c'est mal, et que tu dois être un très intègre. Quel message tu renverrais si Nicolas Karabatic, qui, même si c'est il y a 14 ans et demi, même si peut-être il n'a pas vraiment tout à fait trempé là-dedans avec son frangin, je ne connais pas très bien les contours de cette histoire, mais pour l'opinion française, de manière générale, et pour la délégation qui ne va pas aller faire une étude de cas sur cette affaire avec Karabatic, quel message tu leur envoies si c'était possible qu'il soit le représentant de tous ces athlètes? Ça ne marche pas. Et il le sait très bien, et il ne s'en plaint pas, et il n'est pas allé dire haut et fort, mais comment ça, je suis privé de ce rôle-là. Voilà, il va faire son job dans l'équipe. Et même la Fédé de Hand a très bien réagi en disant, c'est un combat qu'on ne veut pas mener et on ne va pas le mener. Ils vont faire leurs preuves sur le terrain, gagner des matchs, et c'est super. Et je crois qu'il ne faut pas aller plus loin que ça.
Donc, ce n'est pas injuste pour toi, pour Nicolas Karabatic, malgré ce qu'il a fait gagner à l'équipe de France.
Tu as fauté, tu seras puni ad vitam aeternam. Ainsi,
mais qu'est-ce que tu veux que je te dise,
Olivier? le tribunal médiatique a parlé.
On va écouter Olivier Giraud qui évidemment connaît bien Nicolas Karabatic.
Je connais bien Nico. J'ai une particularité aussi, je suis administrateur du comité olympique. Donc ce sujet-là, moi, il me parle. Toi, tu es la commission des athlètes, moi, je suis administrateur.
Donc, juste pour préciser, tu as eu ton mot à dire sur les critères pour le port-drapeau ou pas ?
On a notre mot à dire, mais je ne le dis pas. De toute façon, le sujet des ports-drapeaux, c'est un sujet qui me dépasse la manière dont nous choisissons nos ports-drapeaux.
D'accord.
Et quand on regarde à quoi sert un port-drapeau, on peut débattre dessus.
Alors, restons sur Karabatic.
Non, c'est important de le dire. Ça veut dire que les autres pays, ils se posent pas la question de savoir si t'es quelqu'un de bien, t'es pas quelqu'un de bien. C'est qu'est-ce que représente la personne dans le monde ?
Ouais.
Parce qu'elle
représente, pas qu'elle se représente, est-ce qu'elle est bien entre nous,
en train de... Les Jeux Olympiques en France, c'est dans ton propre pays, c'est normal.
Ça, c'est ton opinion. Moi, mon opinion, c'est par exemple, il y a une époque, il fallait mettre Tony Parker. Surtout, on avait plein de trucs. Donc, on peut discuter sur la manière de mettre les ports-drapeaux. Mais là, par contre, ce qui m'intéresse le plus, parce que ce débat, il va être très court, c'est le mot manipulation. C'est-à-dire que le mot, quand on commence à discuter de ça, et qu'on n'étaye pas vraiment, eh ben, c'est ça qui reste. La manipulation, ça veut dire être sur le terrain et manipuler le jeu. C'est-à-dire que cette histoire, il faut vraiment la raconter.
Mais non, tu ne peux pas rentrer dans ce genre de détails.
Si, moi je vais rentrer tout de suite dedans.
Mais prendre du recul par rapport à la situation.
Et moi j'aurais voulu qu'on ne mette même pas son nom.
Mais personne n'a mis son nom.
Parce que, tu sais, il y a ce truc, tu sais, style les athlètes, on est tous ensemble et tout. C'est quoi l'histoire des ports-drapeaux? Là, il y a les jeux qui vont arriver. Le seul truc que ça crée de la division, de la jalousie. Tout le monde veut l'être pour des raisons différentes. Je déteste ce qui se passe actuellement.
Mais Olivier, ce critère de première participation, t'en penses quoi?
Je pense que non, parce que regarde, ça veut dire qu'une jeune gymnaste qui est championne du monde, elle pourrait pas être, parce que la gym est un sport où, par exemple, t'as une carrière très courte, elle pourrait jamais être porte-drapeau.
Non, mais c'est des critères qu'on
est d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Alors, c'est pas le débat, les amis. C'est vraiment
toi,
sur Nicolas Karabatic. Est-ce que c'est injuste?
Et tu sais quoi? C'était obligatoire que tout le monde allait sauter là-dessus. Donc, je me pose même pas la question juste et injuste. Ouais.
Mais personne
n'a sauté
là-dessus.
En fait, en mettant son nom.
Non, mais après, il est cité parce qu'il fait partie des plus grands sportifs français.
Oui, mais en mettant son nom, on sait tout de suite là où tout le monde va plonger.
Il fait partie des plus grands sportifs français, même titre que Roland Lavinelli.
Mais moi, dès que j'ai vu son nom, j'ai dit, je sais ce que tous les gens vont faire. Et ils vont faire ce qu'on est en train de faire.
Non, les critères, c'est pas les gens qui les mettent en place, les critères.
Non, mais on n'a rien fait de mal. Moi, j'ai expliqué ce qui se passe au niveau de l'accompagnement des athlètes dans une délégation, ce qui est très important.
Tu sais, au fur et à mesure, je vois les critères qu'on met.
Sont les organisateurs de Paris 2024.
Chaque critère que tu mets, tu sais très bien qui tu vas exclure. Tu sais très bien qui tu vas exclure. Quand tu dis,
tu veux dire que les critères sont faits pour sélectionner au final.
Quand tu mets le critère, tu dis, si t'as déjà été porte-drapeau, t'as pas le droit de l'être. Tu sais très bien qui t'exclut. Tu sais très bien qui t'exclut.
D'accord. Donc toi, c'est quoi ton idée? C'est de dire que ça y est, le porte-drapeau, il est déjà choisi?
Il est pas choisi, mais la manière de choisir.
Alors vous votez pour qui? C'est si on faisait un petit sondage là, tiens. Allez.
Moi, je suis plus intéressé par la personne qui va allumer la vasque. Que
Marie-José Pérec,
Il n'y a pas photo.
Je pense qu'un David Douillet n'en sera pas loin non plus. Il sera dans les derniers relais.
Mais pour parler des porte-drapeaux, si Olivier Giraud me dit aujourd'hui, ça y est, ils ont déjà fait leur choix, en quelque sorte, ou en tout cas, ils ont des critères pour faire leur choix.
Non, parce que c'est les athlètes qui votent.
En fait, ils n'ont pas fait leur choix. Ils ont fait le choix d'exclure plusieurs catégories de sportifs.
Ils ont fait des règles pour Et tu sais,
le sport, ça a une particularité. Hein. Tu sais, le truc des athlètes. Arrêtez du truc de la communauté. Un athlète, il a une particularité. C'est que pendant toute sa carrière, il est auto-centré. Il ne pense qu'à sa tronche. Et c'est très bien.
Mais pas tous, arrête.
Parce que tu dois être concentré sur ta performance. De dire qu'il y a un truc collectif et tout, ça n'existe pas. Regarde tous les débats. Moi, je veux avoir ça dans le village. Et c'est pas autocentré,
c'est pas parce qu'on a eu des exemples d'athlètes autocentrés qui ont pour le coup été porte-drapeau.
Alors là, on voit à peu près le nom, quoi. Là, on a compris.
Mais alors, vous voulez pas qu'on fasse un petit vote de porte-drapeau, là, les GG là, qui sont autour de la table rapidement, Marie?
Un homme, une femme. Pauline Ferrand ou.
Je crois que c'est compliqué avec son programme olympique, mais bon.
Ouais, ou Mélina Robert-Michon pour ce qu'elle représente de l'Olympisme.
Non, tu veux faire deux nanas.
Chez les filles. Et chez les garçons, Manodou.
Ok. Marion ?
Alors moi chez les filles Estelle Nzemiko et chez les garçons j'hésite entre Manodou et Renaud Lavillény, même s'il n'est pas sûr de se qualifier parce que pour l'instant il n'arrive pas à faire les minima 5,82, mais ouais, Manodou et Nzemiko.
Manodou qui sera l'invité de Bartoli Time 19h ce soir sur RMC.
C'est ça.
Moi je vais voter pour Estelle Mosley.
Ouais.
Et j'aurais voté Karabatic s'il avait les critères.
Et Karabatic,
mais donc comme il n'a pas les critères, je vais voter Florent Manodou.
Et Olivier ?
Moi, j'ai pas le droit de choisir, j'ai un droit de réserve pour deux raisons.
Même dans les grandes gueules du sport ?
Non, j'ai pas le droit.
D'accord. Tu nous les diras.
Je suis administrateur du comité. Olympique, j'ai pas le droit de choisir.
Alors, écris-moi sur un papier, je te promets que ça sortira pas d'ici.
Moi, je suis
adresse
de la commission,
c'est lui qui décide. C'est Olivier qui décide, il peut pas nous le dire, voyons. Laissez-le tranquille.
C'est pas parce que tu donnes un avis. C'est pas lui qui décide, c'est les athlètes qui votent. Mais arrêtez avec ça.
Dans un instant, le zapping des GG. On va continuer, tiens, de parler de Jeux Olympiques avec un thème évidemment important, le nombre de préservatifs. Ça, c'est un chiffre très, très important.
Je vais
vous donner dans un instant.
Ils doivent être exemplaires, les sportifs, tout ça. Mais par contre, ça peut y aller. Hein, c'est le
portail de
l'Olympique. RMC, 9h30, midi.
Ils arrivent effectivement en extraterrestre. Ils archi-dominent tout le reste de la concurrence.
Les grandes gueules du sport.
Moi, ça m'excite fortement. François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport.
Non, mais là, c'est sûr, c'est sorti de son contexte.
Eh oui.
Non, mais là, complètement sorti de son contexte, ça peut prêter à confusion.
On peut remercier Alban, notre réalisateur, pour cette magnifique production.
Il adore manipuler les sons.
Le grand manipulateur des GG.
Alban, tu seras fouetté.
Vous l'avez compris. Mario Bartoli, Marie Martine, Olivier Giraud, Christophe Cessieux dans les grandes gueules ce matin. C'est jusqu'à midi à retrouver en podcast également. Elles sont en forme, nos grandes gueules. Donc réécoutez tout ça si vous nous écoutez en podcast. On vous salue. Dans un instant, les GG passent la seconde avec Benzema aux Jeux Olympiques en équipe de France. Bonne ou mauvaise idée ? Didier Deschamps s'est exprimé cette semaine. Vous l'entendrez dans les GG.
Ça discute.
Ce sera à 11h.
Ça se chicote entre Olivier et Marie sur la commission des athlètes, le machin,
non,
les trucs.
On se chicote pas.
Il y a une espèce de vue d'ensemble, de pluralisme.
Oui, on va pas lancer le débat.
On sent que le monde sportif français est uni derrière.
Mais c'est ça, les GG, ce sont des débats animés et on les a même hors antenne. Mais quand on est à l'antenne, s'il vous plaît, parlez moins fort. Merci. Je remplace Jean-Christophe Drouet une fois par an. J'aimerais un petit peu de calme.
Ouais, fais le plus rapidement que lui, parce que il met 2 heures pour nous expliquer, pour nous taper sur les doigts, papy, là.
Bon, les grandes gueules du sport aussi, qui vous gâtent ce matin quand même. Écoutez bien, les amis qui nous écoutez ce week-end, on vous offre 2 places pour les épreuves de paracyclisme au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, avec Hôtel F1, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous pourrez assister aux qualifications et au final hommes et femmes du contre-la-montre et de la poursuite. C'est donc, je vous l'ai dit, le 31 août. Pour remporter vos places, envoyez tout de suite vélo au 7-32-16. Vélo au 7-32-16.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Vous connaissez le principe, plusieurs infos de la semaine à vous donner. Si ça vous intéresse, vous pouvez commenter. Sinon, vous passez votre tour. Une info de la nuit. D'abord, les GG au championnat du monde de patinage. Le français Adam Siaoimfa remporte le bronze. Est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on s'en fout pas, Christophe Cessieux ?
On ne s'en fout pas.
Marie Martineau.
Marie s'en fout, c'est de la glace, elle préfère la neige.
Je m'en fous pas, ouais, c'est qu'il y aurait des points sur la neige. Mais bon, alors je m'en fous pas juste pour pouvoir le dire.
Olivier Giraud.
Je vais écouter.
Ah. Marion Bartoli.
Non, je m'en fous pas parce que j'adore le patinage artistique.
Le français, déjà champion d'Europe, a réussi un programme libre incroyable pour aller chercher cette 3e place parce qu'il avait raté son programme court. Il avait terminé 19e. Il a notamment réalisé son désormais fameux salto arrière, élément pourtant interdit. Et c'est l'américain Ilya Malinin, 19 ans, qui est devenu champion du monde grâce à une autre figure spectaculaire, le quadruple Axel. Seul patineur à avoir réalisé cette figure en compétition. Pourquoi tu t'en fous pas, Marie, du coup ?
Rendons à César ce qui appartient à César. Adam est incroyable et c'est un patineur extraordinaire et on a beaucoup de chance de l'avoir. Non, je m'en fous pas parce que j'avais envie de passer un coup de gueule parce que on parle de patinage, c'est super. D'accord. Mais il y a des globes qui sont distribués en ski, en snowboard ce week-end. C'est le dernier week-end de sport blanc et le conducteur, mais ça c'est pour entre nous, c'est pour les gens, c'est le sommaire de l'émission.
C'est marrant, ça fait 10 ans que tu fais cette émission, t'as toujours pas compris comment ça fonctionne.
Ouais, c'est pire en pire.
Ça c'est sur moi. C'est moi qui le prends personnellement. officiellement.
Non,
Marie.
Bah, oh, non.
C'est la première émission qu'on fait ensemble et hop, direct, tu fais un petit tac comme ça.
Bah oui, alors prends-le pour toi.
Très bien, merci.
Non, mais c'est de pire en pire, Christophe. Il y a eu une époque où on faisait des podcasts.
Mais on parle de ski, vous rigolez ou quoi? On en parle tous les week-ends.
Ouais, donc qui prend le
club de snowboard? On a parlé de Chiffrine, on parle de Sarrazin, on parle de Audermark. Tu rigoles?
Tiens, c'est maintenant la descente d'ailleurs. Le Sarrazin a été repoussé à midi le départ.
Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a des courses qui sont annulées ou repoussées. Christophe, sur le patinage.
Non, je trouve ça très chouette qu'il ait pu rattraper parce qu'il a fait une terrible erreur lors du programme court. Il a chuté, il était 19e et d'arriver comme ça à remonter à la 3e place, c'est dire si ce garçon est doué. Mais bon, malheureusement pour la médaille d'or, il faudra pas tomber la prochaine fois au programme court.
Évidemment,
en tout cas, on a une vraie pépite, je pense, dans le patinage.
Et Marion, fan de patinage, un petit mot?
Oui, et puis il a vraiment réalisé une prestation dantesque. Il a dit lui-même la meilleure performance de sa vie. Avec l'Américain, tous les deux ont reçu la plus longue ovation du public qui ont été conquis par leur performance. Donc moi, j'adore regarder les compétitions de patinage artistique. Donc je me suis absolument régalée de cette performance.
Alors, une autre info de cette semaine. Les matchs de Ligue 1 des clubs français engagés en Coupe d'Europe, PSG, Marseille et Lille, ont été décalés pour aider le football français. On s'en fout pas. Marie Martineau.
M'en fous.
Olivier Giraud.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Mario Bartoli.
Ah non, je m'en fous pas.
Christophe Cécile.
Je m'en fous pas.
On a appris cette semaine que la LFP avait changé la programmation de la 29e journée de Ligue 1, c'est-à-dire la journée qui est juste avant le quart de finale retour de toutes ces équipes en Coupe d'Europe. Les matchs donc Lorient, PSG, Monaco, Lille, Marseille, Nice ont été décalés au 24 avril pour leur permettre, et c'est cité dans le communiqué de la Ligue, le parcours des clubs français en Coupe d'Europe est une priorité absolue, donc pour leur permettre de briller, Olivier.
Bah c'est une bonne chose, et surtout que si le calendrier a été changé, c'est que tous les autres clubs sont d'accord. Donc c'est
Lorient a un peu fait la tête. Voilà, hein, ils doivent affronter le PSG, ils ont un peu fait la tête.
T'auras toujours un ou deux parce que question de calendrier, surtout quand t'accueilles le PSG, tu fais des recettes. Donc par rapport à ça, on peut comprendre Lorient, mais quand c'est voté à l'unanimité des clubs professionnels, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on pense aussi au point UEFA qui s'améliore aussi.
Christophe.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, pendant des années, on ne faisait pas cas de ce barème UEFA, et du coup, on se plaignait à la fin de dégringoler, d'avoir moins de clubs représentés les années suivantes. On a compris que c'était important. On a compris qu'il fallait essayer de mettre dans la soie les équipes, nos derniers représentants dans les phases finales de Coupe d'Europe. Je trouve que c'est une très bonne chose. Tant mieux pour le football français. On espère avoir des Français qui iront plus haut encore jusqu'en finale, pourquoi pas.
Alors, Marie, on n'a pas le temps de te faire réagir. Je voulais quand même vous donner cette information sur le nombre de préservatifs mis à disposition des athlètes pour les JO.
Ah ouais.
Personne s'en fout ici.
La transition que tu as faite, c'est un truc de malade. Ça fait un enchaînement. Je suis outré.
Magnifique. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Attention,
ah, mais si, tu l'as dit quand même.
Non, mais il y a peut-être une
vie.
Marion, elle parle pas de sérieuse, elle parle que de cul. Donc, elle parle de préservatif.
Marion, il y avait un point. À la fin de Marion, il y avait un point.
Oui, en fait, la ponctuation était mal placée, Marion.
Donne-moi
la chiffre
quand même.
Donc, vas-y.
250 000 préservatifs pour l'ensemble des athlètes.
Raconte, alors,
200 000
moi,
masculins, 20 000 préservatifs féminins pour 15 000 athlètes.
Je veux surtout savoir, je voudrais avoir des témoignages de ce qui se passe dans le village olympique. Vous qui avez participé au village olympique, c'est vrai que c'est une orgie perpétuelle.
Bah non, je suis désolée de te.
Enfin, ça dépend pour qui.
Des sports d'hiver, pas du tout.
Quoi. Qui est au village olympique, reste au village olympique, c'est ça que tu veux dire.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ton imagination travailler, ça marche très bien.
Voilà, c'est ça, c'est mieux, toujours.
Le record, toujours, en tout cas, n'est pas battu, c'était Rio. Parce que Rio, visiblement, c'était la fête en 2016.
Ah oui, bah Rio.
Il y avait plus de 400 000 préservatifs disponibles, voilà, pour info. Voilà,
on a quand même pas parlé de Formule 1, je vous signale. On n'a pas parlé du doublé de Ferrari.
Pourquoi
bah oui, doublé de Ferrari.
Non, mais parce qu'il reste un débat caché.
Parce que c'est débat caché.
Inch'Allah, c'est un débat caché.
On sait. Ah, moins que ce soit du snowboard cross.
Les GG qui passent la seconde dans un instant.
Ou les femmes en rugby. Il reste beaucoup, beaucoup de sujets.
Vous restez avec moi. On parle de Karim Benzema au JO. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Eh, les amis, un peu de discipline.
Pardon.
Allez, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport avec Benzema au programme. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.